Fidélité, l'invité de la rédaction.
Le mouvement mondial des travailleurs chrétiens se réunit à partir de demain à Rezé jusqu'au 21 octobre pour un séminaire international et puis également pour la 11e assemblée générale de ce mouvement mondial des travailleurs chrétiens. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce mouvement? Quels sont les enjeux autour également du thème sur lequel les participants vont participer donc à ce séminaire? Le thème c'est travailleurs, migrants et mondialisation. Nous allons en parler avec nos invités de la rédaction. Paul-Yves Blanchette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du Mouvement mondial des travailleurs chrétiens. Paul Edwards, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, secrétaire général de ce mouvement mondial des travailleurs chrétiens. Qu'est-ce que ce mouvement, Paul Edwards?
C'est un mouvement international. C'est un mouvement catholique international reconnu par le Saint-Siège à Rome depuis 1966. Et aussi, c'est un mouvement reconnu par les Nations Unies comme un ONG. Par exemple, on participe tous les ans à la rencontre internationale, la conférence internationale des travailleurs à Genève, et nous sommes plus ou moins, comme vous avez dit tout à l'heure, 50 mouvements dans le monde, dans tous les continents, et souvent on organise les travailleurs plus pauvres, plus marginalisés dans les pays. Par exemple, dans le sud, souvent ils sont les travailleurs dans les secteurs informels, et souvent les membres des familles sont obligés à quitter les pays pour trouver un boulot dans un autre pays, soit aux États-Unis ou soit ici en Europe.
Donc on l'a bien compris, votre cible, hein, ce sont ces travailleurs pauvres. Vous accompagnez ces travailleurs pauvres. Pourquoi? Quel est l'objectif de ce mouvement?
C'est pour aider les mouvements à faire une réflexion sur la vie, confrontée par les messages de l'Évangile de Jésus-Christ, pour encourager un engagement dans la vie, pour lutter pour une vie meilleure, avec les travailleurs qui croient ou qui ne croient pas, qui sont croyantes ou qui n'en croient pas. C'est pour organiser ensemble, pour améliorer la vie des travailleurs dans le monde du travail, dans le quartier, avec les associations, avec les syndicats aussi.
Paul-Yves Blanchette, vous êtes-vous président de ce mouvement mondial des travailleurs chrétiens, ce mouvement qui rassemble une cinquantaine d'associations. En France, par exemple, ça rassemble quel type d'associations?
Le chapeau en France, c'est l'Action catholique ouvrière ACO, et ça regroupe 13 000 membres en France. Au niveau mondial, ça regroupe à peu près 400 000 membres. Paul a mentionné tantôt, on est présent dans une cinquantaine de pays, plus de 70 mouvements dans 4 continents. Vous posiez la question avant l'entrevue, quel est le spécifique de ce mouvement?
Oui, alors j'allais vous le poser justement. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce mouvement mondial des travailleurs chrétiens? Quelle est la différence entre ce mouvement et un syndicat international de travailleurs, par exemple?
Bon, le spécifique, c'est un regroupement de travailleurs chrétiens. Bien sûr, il y a des syndicats qui regroupent les travailleurs, il y a des associations chrétiennes pour couvrir tous les aspects de la vie, pratiquement. Il y a des regroupements internationaux pour toute une série de questions ou toute une série de spécificités, mais ce qui est le spécifique du mouvement des travailleurs chrétiens, c'est un regroupement de travailleurs chrétiens au niveau international. Et la méthode utilisée, la pédagogie si on veut, c'est celle de la révision de vie, le voir, juger, agir. Ce que Joseph Cardin, Monseigneur Cardin, un Belge, a créé entre les deux guerres, quand il a mis sur pied la jeunesse ouvrière chrétienne, JOC, c'est cette méthode qu'il a proposée au mouvement. Et c'est avec cette méthode que la réalité est analysée, et c'est dans cette méthode que la spiritualité apparaît pour nourrir et la réflexion et l'action des chrétiens dans le monde.
Un travailleur chrétien n'est pas un même travailleur qu'un autre travailleur qui n'est pas la foi chrétienne?
Je pense que tout le monde est appelé à améliorer la société. Tout le monde est appelé au bonheur sur Terre. Tout le monde est appelé à aider son frère et sa sœur. Les non-croyants aspirent, j'imagine, au bonheur et aspirent à rendre leur communauté meilleure, mais les croyants sont conscients qu'ils ont ce rôle à faire. Et en plus d'être conscients, ils ont une méthode pour y arriver. Et ils sont aussi poussés par la vie de Jésus-Christ, par l'enseignement qui est donné. Non, je pense qu'un chrétien est conscient de sa mission.
Paul Edwards, vous êtes le secrétaire général de ce mouvement mondial des travailleurs chrétiens et vous avez choisi, pendant ce séminaire international, de vous intéresser en particulier à la thématique « Travailleurs, migrants et mondialisation ». Pourquoi ce thème?
Oui, depuis les dernières 4 années, nous avons travaillé sur la question du travail décent pour une société meilleure. Mais tous les 2 ans, nous avons un séminaire régional. Et dans nos séminaires régionaux, on a constaté de plus en plus les travailleurs, surtout dans le sud, sont obligés de quitter leur pays. Ça crée beaucoup de problèmes pour les migrants avec un voyage difficile et dur. Et souvent, ils sont en mode, en route. Et aussi, il a des conséquences pour le pays qui envoie les migrants. Donc, pour nous, c'est une problématique très importante dans le monde. Et maintenant, avec la crise globale économique, il y a de plus en plus de migrants qui sont obligés de partir. Mais en même temps, le pays d'accueil, ils ont aussi des problèmes d'accueil les migrants. Mais comme nous avons dit, nous sommes un mouvement de chrétiens. Et pour nous, il n'y a pas des étrangers dans la maison de Dieu. Donc, pour nous, c'est un problématique dans 2 cadres, pour les travailleurs qui quittent et pour les travailleurs qui accueillent les travailleurs dans le pays accueillant. Donc, c'est un problématique très important aujourd'hui pour le monde.
Mais alors, justement, Paul Yvon Blanchette, est-ce que l'objectif pour vous, c'est d'essayer de sauvegarder une certaine économie dans les pays du Sud et donc trouver des emplois à ces personnes et donc lutter contre cette immigration qui est parfois clandestine? Ou est-ce que c'est vraiment faire un bon accueil avec les portes grand ouvertes dans les pays occidentaux?
C'est une bonne question. Hein, la cause du départ des travailleurs de leur pays, c'est vraiment les mauvaises conditions de vie, la mauvaise gouvernance. Est-ce que c'est agréable de vivre dans un système de corruption sans espoir pour l'avenir, sans possibilité que nos enfants soient instruits, sans travail pour la famille? Il n'est pas humain de vivre dans des conditions sous-humaines. Et c'est le cas de beaucoup de pays dans le monde. Le point de départ, il est dans le pays d'origine. Hein? Je pense que les militants chrétiens, par exemple dans le Sud, ont tout un défi devant eux. Comment, dans le pays, on peut faire pour garder nos travailleurs qualifiés, notre jeunesse qui s'instruit? Hein? Si on fait ça, il y a de la place pour les familles, il y a de la place pour les associations. Bon, on a aussi à regarder les pays qui accueillent. Par exemple, en Europe, on est très préoccupé comment préserver la sécurité sociale. Mais on sait qu'avec tous ces nouveaux arrivants et avec la complicité du patronat, le système qu'on a réussi à mettre sur place depuis la Deuxième Guerre, par exemple, est en train de s'éroder. Hein? Et le patronat veut bien couper dans la sécurité sociale. Les gouvernements veulent bien de ces gens qui viennent de l'Europe de l'Est et qui sont prêts à travailler 12 heures par jour à moindre salaire. Mais on aide qui de cette façon? Hein? Il faut donc trouver un équilibre du point de départ, mais il faut aussi questionner les pays qui reçoivent.
Et comment vous allez expliquer aux travailleurs, je pense aux Français, mais enfin on peut généraliser à l'ensemble des pays occidentaux, mais comment vous allez expliquer à ces travailleurs occidentaux que des migrants peuvent venir et donc prendre aussi leur place?
Bon, je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais il n'est pas normal qu'un pays qui accueille accepte une telle baisse de son standard. À l'inverse, et c'est un dilemme aussi, tout le monde a accès aux ressources de la terre. Il n'est pas normal qu'un seul groupe puisse s'en accaparer au détriment de tous les autres. La richesse a été acquise, je ne peux pas dire de façon honnête, pendant toute la période coloniale. Bon, ça fait qu'on a à se questionner tout le monde. Et dans ce sens, l'aspect spiritualité nous est très utile. Parce qu'on a affaire à toute une culture blanche occidentale avec un standard. Bon, je n'ai pas les réponses à ces questions. Je pense que la foi peut nous aider à en comprendre certaines. Je ne vais pas donner de réponse ce matin.
Mais alors, c'est difficile pour vous qui représentez aussi les travailleurs, tous les travailleurs, qu'ils soient occidentaux ou des pays du Sud, de concilier à la fois les attentes de ces travailleurs des pays occidentaux et les attentes des travailleurs du Sud.
Oui, c'est toujours difficile, mais la réalité, c'est une tension entre les deux. Oui. Mais pour moi, parce que je suis syndicaliste en Angleterre, mais j'ai lutté souvent pour l'égalité avec les travailleurs du pays et pour accepter les travailleurs immigrants. Donc, il faut s'organiser tous les travailleurs, pour défendre les droits des travailleurs, pour assurer tous les travailleurs à les mêmes conditions de travail, à le même respect, le même salaire, les mêmes bonnes conditions. Mais dans les pays occidentaux, depuis beaucoup d'années, avec le système néolibéral, les conditions que nous avons gagnées avec les années de lutte sont menacées par le système économique. Mais souvent, les travailleurs migrants sont culpabilisés par le système et par les médias. Et nous, comme travailleurs chrétiens, il faut lutter contre cette mauvaise image des travailleurs migrants et organiser ensemble tout le monde. Ça, c'est pour moi.
Très souvent, et peut-être trop souvent d'ailleurs, lorsqu'on se dit défenseur des salariés ou des travailleurs, c'est au détriment, entre guillemets, du patronat. Lorsque l'on est à la défense de ces travailleurs avec un esprit chrétien, est-ce qu'on est aussi dans cette opposition face au patronat, face également au monde de l'argent ?
Je n'ai pas compris votre question.
Est-ce que vous avez mieux compris peut-être, Paul-Yvon Blanchette?
Une partie. Les chrétiens travaillent dans toute une série d'associations. Par exemple, dans la région de Nantes, ici, on va visiter cette semaine un groupe qui travaille avec les migrants. Bon. Que font les chrétiens? Bien sûr, offrir le café, aider à l'alphabétisation, aider les familles à se loger. Je pense que c'est déjà un premier geste. Bon, ce n'est pas du travail syndical. Mais un syndicaliste n'a pas accepté dans une entreprise deux types de travailleurs. Si vous êtes dans un chantier maritime, il y a un type de travailleur, il y a un type de mécanicien. Il n'y a pas les mécaniciens qui ont 45 ans et plus et qui sont français, et comme il n'y a pas les mécaniciens tout jeunes qui viennent d'arriver, qui ont d'autres conditions, et il n'y a pas les mécaniciens migrants qui sont un troisième ordre. Ouais. Un syndicat doit défendre un type de mécanicien.
Je reviens à ma question, pardonnez-moi, mais visiblement vous n'avez pas saisi ma question. Je vous expliquais qu'aujourd'hui, encore trop souvent, et en particulier en France, le syndicalisme ou la défense des travailleurs, cela voulait dire s'opposer au patronat. Est-ce que c'est votre avis aussi de votre façon de négocier pour ces travailleurs en tant que spécificité d'avoir à la fois la défense du travailleur, mais également la foi chrétienne?
Les méthodes syndicales sont les méthodes syndicales, c'est-à-dire que on défend un groupe, souvent peut-être en opposition, à un autre groupe. Bon, est-ce que les chrétiens sont perçus comme des gens qui s'opposent ou comme des collaborateurs? Peut-être que dans l'histoire, on a été beaucoup accusés d'être des collaborateurs, mais parmi nous, il y a des travailleurs syndicaux et des syndicalistes qui sont des gens qui défendent les travailleurs avec autant d'ardeur que s'ils n'étaient pas chrétiens. Bon, je pense qu'il y a plusieurs facettes parmi les membres du MMTC, plusieurs façons d'agir, mais qu'est-ce qui est recherché dans le fond? La défense de la personne qui est sans droit, la justice pour tous et le partage des ressources. Oui. Quelquefois, ça prend des formes de collaboration, d'autres fois, ça prend de l'affrontement.
Cette crise que nous connaissons aujourd'hui, cette crise financière, aurait pu permettre peut-être un nouveau mode de gouvernance, notamment sur le partage des richesses. Est-ce que cette crise va servir à quelque chose, selon vous, pour les travailleurs du monde?
Oui, je crois que cette crise est une opportunité aussi pour confronter les valeurs qui ont dirigé l'économie depuis 30 ans. C'est une économie qui a bénéficié les plus riches. Quand on regarde les statistiques, on voit un écart qui est plus large entre les plus riches et les plus pauvres depuis 30 ans. Pour moi, on peut maintenant confronter les valeurs qui soutiennent le système néolibéral avec les valeurs de Jésus-Christ. Pour moi, quand Jésus-Christ a dit il faut nourrir les gens qui n'ont pas de la nourriture, c'est notre rôle de trouver une société qui est plus juste. Quand une personne a de la faim, il n'a pas de moyens pour vivre en dignité. Pour moi, il faut changer le système. Ce n'est pas une question à poser des patronats ou prendre une position politique avec un certain parti politique, mais c'est pour engager, pour créer un système, un monde plus juste. Mais quand le nombre de pauvres augmente tous les jours, ce n'est pas le royaume de Dieu sur la terre pour moi.
Et maintenant que l'on parle de reprise économique, ou en tout cas de prémices à cette reprise, vous croyez à cette prise de conscience plus humaine dans nos entreprises?
Bon, le patronat va toujours demeurer le patronat. Hein. Mais je pense qu'il y a une opportunité, comme mentionné, que des initiatives de nouvelle gouvernance puissent se faire. Déjà qu'on limite aux États-Unis les primes à verser aux dirigeants qui nous ont amenés à cette faillite, c'est déjà très bien. Que le président Obama pense à un système de santé pour couvrir 40 millions d'Américains, si ce système passe, hein, c'est une grande avancée. Et les gouvernements du monde sont sous contrôle citoyen aujourd'hui. Hein. On ne peut plus faire ce que l'on veut. Il y a tout le temps de tentatives, hein, mais on a aussi une belle période à vivre au point de vue coopératisme. Toutes ces organisations, toutes ces nouvelles formes d'organisation plus collectives, plus proches des citoyens, où la responsabilité est partagée entre tous. Hein. Ça, et les citoyens, s'ils prennent conscience de leur pouvoir, si les associations, les mouvements prennent la place publique, vraiment, il y a de l'espoir pour l'avenir dans cette forme. À l'inverse, il n'y a pas d'espoir à répéter le système économique qui enrichit certains, qui gobe la capacité de travailler de tous les autres hein, pour enrichir quelques personnes.
Merci d'avoir été nos invités de la rédaction. Paul-Yvon Blanchette, président de ce mouvement mondial des travailleurs chrétiens, et vous, Paul Edwards, secrétaire général de ce même mouvement. Et le séminaire international se poursuit, hein, arrosé au centre spirituel des Naudières jusqu'au 21 octobre. Merci d'avoir été nos invités de la rédaction.
Merci à vous.
Grand merci.
Demain, notre invité de la rédaction sera le président de l'UDAF de Loire-Atlantique, l'Union des associations familiales. Et avec lui, nous parlerons, tiens, aussi de la sécurité sociale et de cet argent que l'on demande encore un peu plus aujourd'hui aux contribuables et notamment aux assurés sociaux pour se faire hospitaliser, avec un coup de gueule de ce président de l'UDAF 44. Demain, notre invité de la rédaction à 8h30 et à 12h10.
C'était l'invité de la rédaction sur Fidélité.